12h31, c'est l'heure du journal. Journal de France Culture présenté par Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Revenu l'an dernier à son plus bas niveau en près de deux décennies, le déficit de la Sécu devrait se creuser à nouveau en 2019, selon une synthèse de la Commission des comptes. Un retour à l'équilibre remis en cause, dit-on, par le ralentissement économique, mais aussi les concessions accordées aux Gilets jaunes.
C'est aujourd'hui que le Sénat doit adopter, après l'Assemblée, le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn, et ce, sur fond de crise dans les urgences.
Une mobilisation dans les hôpitaux publics est d'ailleurs prévue cet après-midi à l'appel de plusieurs syndicats.
En Italie, les dirigeants de la coalition pouvoir semble s'être mis d'accord sur la nécessité d'éviter que Rome soit sanctionnée par la Commission européenne.
La semaine dernière, Bruxelles avait conclu que l'augmentation de la dette de l'Italie justifiait l'ouverture d'une procédure disciplinaire. 75 migrants, dont au moins 32 enfants et mineurs non accompagnés, partis de Libye et secourus il y a 10 jours par un remorqueur égyptien, attendent toujours de pouvoir débarquer, ce à quoi se refusent pour l'instant les autorités tunisiennes. Enfin, l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, André Gattolin, sénateur LREM des Hauts-de-Seine. Avec lui, nous évoquerons la réforme de l'audiovisuel public. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il s'élève contre le bullshit ambiant. C'est le terme qu'il emploie dans son nouvel essai. Le philosophe Pascal Engin nous dira pourquoi, à ses yeux, la vérité aujourd'hui n'a plus de valeur et pourquoi il faudrait peut-être retrouver une certaine éthique intellectuelle dans les discours à la fois politiques, médiatiques et savants. Il sera notre invité donc dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. Ce devait être une première en France, plus exactement du jamais vu. En 18 ans, la loi de financement de la sécurité sociale prévoyait un excédent de 100 millions d'euros en 2019. Sauf que depuis, le vent a tourné et la promesse s'est finalement fracassée, non seulement sur la réalité du ralentissement économique, comprenant une croissance de la masse salariale nettement inférieure à la prévision initiale, mais aussi des concessions aux Gilets jaunes, qu'il s'agisse de l'exonération rétroactive de cotisations sociales sur les heures supplémentaires, ou bien de l'annulation de la hausse de la CSG pour une partie des retraités. De sorte que le déficit de la Sécu va donc in fine de nouveau se creuser en 2019 et pourrait même être encore plus important que l'an dernier. Anne-Laure Chouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors dans ces conditions, on se dit que la prime Macron votée en décembre dernier a aujourd'hui quelque chose du cadeau empoisonné, d'autant que le gouvernement sait en réalité depuis plusieurs mois déjà que sa projection de départ était devenue chimérique, et sans compter que l'addition pourrait même se corser davantage encore. Si l'État ne compensait pas la Sécu, les autres mesures d'urgence adoptées en fin d'année au plus fort de la crise des Gilets jaunes, ou quand l'exécutif, Anne-Laure, pourrait avoir de plus en plus de mal à justifier sa nouvelle politique de transfert financier de la sécurité sociale vers l'État.
Oui, l'État dont on peut dire aujourd'hui qu'il a fait preuve d'une confiance un peu excessive, alors que les comptes de la sécurité sociale revenaient dans le vert en fin d'année dernière. Le gouvernement a bien cru en effet que les excédents de la sécurité sociale allaient permettre de combler un autre budget déficitaire, celui de l'État. Il faut rappeler ici que tout transfert du budget de la Sécu à l'État doit être compensé par l'État, puisque les deux budgets sont distincts. En général donc, si l'on réduit ou supprime une cotisation qui sert à financer la Sécu, l'État compense en reversant à cette même Sécu une part de TVA par exemple. La piste de la fusion des deux budgets a bien été envisagée un temps, mais vite écartée. L'autre piste qui s'est alors imposée au moment de construire le budget 2019, c'est celui de transfert non compensé. En d'autres termes, l'excédent attendu de la Sécu allait servir à abonder le budget de l'État. Mais comme c'est un excédent, on ne compense pas et personne ne râle trop fort. Sauf que cette tirelire sociale, en quelque sorte, s'est vidée bien plus vite que prévu. À cause, vous l'avez cité, d'une croissance revue à la baisse, des mesures en faveur des Gilets jaunes, des exonérations de CSG et de la transformation du CICE en baisse de cotisations pérennes. Mais le principe d'un rapprochement entre ces deux budgets, de l'État et la sécurité sociale, il est dans l'air depuis quelques mois déjà. Un rapport destiné à rénover les relations financières entre l'État et la sécurité sociale était remis l'année dernière au Parlement et il évoquait déjà la piste d'une solidarité financière entre l'État et la Sécu. Une solidarité vue d'un mauvais œil par certains, notamment les partenaires sociaux, qui estiment que le budget de la Sécu est déjà insuffisant pour assumer ses propres missions, maladie et vieillesse notamment. Si l'État s'en sert de béquille financière, alors la fin du trou de la Sécu pourrait redevenir un horizon lointain.
Merci Anne-Laure Chouin. Il n'y a pas de mesure miracle qui permettrait d'éteindre le feu immédiatement, comme on pouvait s'y attendre. Cette déclaration signée hier de la ministre de la Santé n'aura pas permis davantage d'éteindre la colère des services d'urgence en grève depuis près de 3 mois et désormais au bord de la crise de nerfs. Et c'est ainsi qu'au moment même où les sénateurs doivent se prononcer aujourd'hui lors d'un vote solennel sur le projet de loi santé porté par Agnès Buzyn, eh bien, les personnels des hôpitaux publics, eux, ont choisi de se rassembler devant le ministère de la Santé. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place où se sont rassemblées donc des délégations venues de toute la France.
Oui, Marseille, Toulouse, Toulon, la Bretagne, le Cher, très concernés par la question des déserts médicaux. Plusieurs équipes sont donc montées à Paris à l'appel de 4 syndicats, FO, CGT, Sud Santé, la MUF, l'Association des médecins urgentistes de France. Il y a presque plus de ballons et de drapeaux frappés des logos syndicaux ici avenue de Ségur que de soignants, mais les représentants qui se succèdent au mégaphone racontent le même désarroi. Des lits qui ferment, des services en souffrance, notamment en psychiatrie ou dans les services de gériatrie. Un aide-soignant en EHPAD vient de raconter les patients qu'on n'a même pas le temps de laisser à peu près propres, ceux qui hurlent parce que ça leur fait mal et la boule au ventre qu'il a le soir en rentrant chez lui. Tous donc viennent demander à la ministre de revoir sa copie, sa loi santé, qui sera, vous l'avez dit, sûrement adoptée tout à l'heure au Sénat. Ils veulent des mesures immédiates et pas seulement en 2022. Les urgentistes en particulier sonnent l'alarme. C'est le fer de lance du mouvement. Une centaine de services en grève désormais dans toute la France, certains depuis 3 mois. Toujours pas de négociations sérieuses en vue. Une infirmière de Saint-Antoine a été particulièrement applaudie tout à l'heure. Saint-Antoine, c'est là que le mouvement avait commencé. Elle décrit la direction de la PHP comme tétanisée à l'idée que l'incendie des urgences gagne désormais tout l'hôpital public.
Merci Tara Schlegel en direct depuis le ministère de la Santé ainsi qu'à Georges Thaud pour les moyens techniques. Il aurait dû arriver sur place en Guyane jeudi, sauf que le voyage du ministre de l'écologie François de Rugy, prévu depuis des mois autour du fameux projet de la Montagne d'Or, a finalement été annulé. Et parmi les raisons invoquées, on explique notamment que le ministre assistera finalement jeudi aux célébrations d'hommage aux sauveteurs disparus en mer en Vendée. Véronique Robérotte, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelles qu'en soient les raisons, la visite est désormais annulée et reportée en septembre prochain.
D'abord, on explique au ministère avoir pris cette décision d'annulation après mûre réflexion, déjà amputée d'un jour à cause du discours de politique générale d'Édouard Philippe. François de Rugy, qui tient à assister donc ce jeudi à l'hommage national aux 3 sauveteurs morts en mer au cours d'une opération de secours, François de Rugy ne serait resté qu'à peine 48 heures en Guyane. Le ministre de l'écologie, sur ce voyage périlleux prévu de longue date, n'était donc plus en capacité, dit-il, d'honorer tous ses rendez-vous. Ses engagements guyanais, c'est ce qu'explique le ministère. Ou s'il préfère remettre sa visite, non pas prochainement, mais au mois de septembre prochain.
Alors reste à savoir, Véronique, si tous ceux qui attendaient de pied ferme François de Rugy sur place, les pros donc comme les anti-Montagne d'Or, seront dans de meilleures dispositions au mois de septembre.
Parce qu'ils espéraient enfin des éclaircissements de la part du ministre, la mine industrielle Montagne d'Or se fera ou ne se fera-t-elle pas? Le 23 mai dernier, lors du Conseil de défense écologique, François de Rugy avait estimé le projet, je cite, incompatible avec nos exigences de protection de l'environnement qui doivent être au cœur de tous les processus miniers, avec à la clé l'engagement d'une réforme du code minier dans les tuyaux depuis des années. Qu'en conclure, les explications et les propositions que le ministre était censé apporter cette semaine sur place en Guyane étaient attendues de tout le monde. Ceux qui espèrent un abandon définitif, ceux qui espèrent que le projet se fera dans une région économiquement sinistrée et où l'orpaillage illégal fait aussi des ravages, ceux qui espèrent que le ministre avait aussi d'autres promesses d'emploi à faire pour compenser un éventuel abandon de la Montagne d'Or. Toutes ces questions auxquelles le ministre de l'écologie n'avait peut-être pas toutes les réponses restent en suspens.
Merci Véronique Robérotte. Ces intimidations ont visiblement été entendues en Italie. Le chef du gouvernement Giuseppe Conte avait menacé à plusieurs reprises ces derniers jours de démissionner si les dirigeants de la coalition au pouvoir ne s'accordaient pas pour trouver un compromis susceptible de régler le contentieux avec la Commission européenne. La semaine dernière, Bruxelles avait en effet conclu que l'Italie ne respectait pas les règles budgétaires de l'UE en raison de l'augmentation de sa dette. Et bien cette nuit, à l'issue d'une réunion avec ses 2 vice-présidents du Conseil, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, le chef du gouvernement a déclaré que les 3 hommes étaient enfin prêts à œuvrer ensemble à la mise au point du budget. Reste évidemment à savoir comment, étant entendu que le verdict sur les comptes publics italiens doit tomber le 9 juillet prochain. Les précisions à Rome de notre correspondante Mathilde Imberti.
Pour affronter les discussions serrées avec Bruxelles, Matteo Salvini et Luigi Di Maio ont décidé d'enterrer la hache de guerre et d'avancer unis. Mercredi dernier, la Commission confirmait la possibilité d'une ouverture de procédure d'infraction contre l'Italie. La menace est réelle. La Ligue et les 5 étoiles doivent se décider sur une stratégie commune. Dans les grandes lignes, la volonté est d'éviter la hausse des impôts et une révision de budget. Dans le détail, c'est le ministre de l'économie, Giovanni Tria, un technicien de compromis, qui trouvera les équations à présenter à l'Europe. Tria, qui devient dans ces semaines de fort remous l'homme clé du gouvernement, le garant de la stabilité face à deux forces politiques tentées par l'affrontement permanent. Les comptes de l'Italie ne respectent pas les paramètres de l'Union, avec un déficit structurel qui se creuse, une dette record, 132% du PIB, la deuxième plus élevée de l'Union, une dette qui devrait encore progresser selon les prévisions de la Commission européenne. Si le gouvernement italien ne trouve pas de réponse convaincante à apporter, la TVA sera automatiquement réévaluée. Cela est prévu dans les plans gouvernementaux validés par Bruxelles en fin d'année dernière. Mais c'est une mesure impopulaire à laquelle les dirigeants politiques de la Ligue et des 5 étoiles cherchent à tout prix à échapper.
La banderole est toujours là, bien visible à l'entrée du village Riace, ville de l'accueil. Sauf qu'aujourd'hui, ce petit bourg de Calabre est devenu en l'espace d'une élection le symbole de la victoire de l'extrême droite de Matteo Salvini et de son slogan « Les Italiens d'abord ». Antonio Trifoli, le nouveau maire vainqueur des élections municipales du 26 mai, avec l'appui de la Ligue, n'a certes pas encore décidé de décrocher la banderole, mais pour combien de temps encore? Durant de nombreuses années, Riace était devenu un modèle d'intégration pour des milliers de migrants dans l'espoir de relancer l'activité économique de ce village perdu et déshérité, un modèle à la fois donc de tolérance et d'inclusion qui avait suscité beaucoup d'espoir en Italie, même au-delà, avant son échec, faute d'adhésion de la part de la population et des soupçons de détournement de fonds. Enfin, ultime illustration de ce que le mythe Riace s'est écroulé sous la poussée de la Ligue, c'est aujourd'hui que doit s'ouvrir le procès de son ancien maire, Mimmo Lucano, bête noire de Salvini, poursuivi par la justice pour aide présumée à l'immigration clandestine. Depuis que le capitaine d'un bateau égyptien a lancé, lui, son appel de détresse, c'était il y a 10 jours, après avoir secouru 75 migrants à la dérive partie de Libye. Ça abouteille à la mer, en l'occurrence un remorqueur desservant des plateformes pétrolières entre l'Italie et la Tunisie continue à errer en mer Méditerranée. Les autorités tunisiennes se refusent toujours à donner leur feu vert pour le débarquement des migrants. Et pourtant, la situation à bord se fait chaque jour plus alarmante. Les vivres commencent à manquer et plusieurs des rescapés sont aujourd'hui malades. Ou quand la Tunisie fait finalement désormais ce que l'Europe, elle, fait déjà depuis plus d'un an maintenant, bloquer les débarquements. Alors en Tunisie, il se trouve que c'est la ville de Medenine, à quelques kilomètres de la frontière libyenne, qui prend en charge aujourd'hui les migrants sauvés en mer ou qui fuient la Libye par le désert. C'est un reportage sur place signé de notre correspondante Maureen Mercier.
Medenine obligée de faire de la résistance parce que ses centres débordent. Voici Mongislim.
Nous sommes inquiets.
Mongislim, responsable du Croissant Rouge tunisien pour la région. Son téléphone ne cesse de sonner. Il est dépassé. Oui, il souhaite accueillir évidemment les migrants bloqués pour l'heure en mer, mais...
La situation actuelle, déjà, nous sommes au complet. Hein. La ville de Medenine a entre 700 et 800 personnes. Il y a des gens qui dorment au couloir, etc.
La place manque, mais la nourriture et les soins également. Alors comment accueillir de nouveaux arrivants? Ici, on fonctionne à flux tendu. Les migrants ne peuvent rester que 60 jours dans le centre. Après, pas le choix, ils doivent faire de la place aux nouveaux arrivants. Cette jeune femme a échoué ici, comme tant d'autres, après avoir été vendue et condamnée à travailler comme esclave en Libye, violée à plusieurs reprises. Des douleurs dues au viol et cette angoisse de ne pas savoir ce qui lui arrivera.
Ici, tu ne peux rester que 2 mois. Après, tu dois sortir, même si tu n'as nulle part où aller. C'est un bon pays, la Tunisie, mais il n'y a pas de travail. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir aller? Je ne sais pas.
En refusant de nouveaux migrants, la Tunisie veut montrer à l'Europe qu'on ne peut lui déléguer la responsabilité des migrants qui continuent à affluer encore plus depuis le début de la guerre en Libye. Une petite phrase d'un responsable du ministère de l'Intérieur résonne pour justifier le refus de les accueillir. Ils veulent l'être par un pays européen, dit-il. En attendant, 75 migrants, dont 32 mineurs, doivent patienter en mer.
Alors que le mois dernier, la haute cour du Kenya avait refusé d'abroger les lois réprimant les relations homosexuelles, douchant ainsi les espoirs de la communauté continentale LGBT, la bonne nouvelle cette fois-ci est venue ce matin du Botswana. La haute cour du pays a décidé de décriminaliser l'homosexualité interdite dans le code pénal du pays datant de 1965. La justice a aussitôt ordonné que les lois soient amendées en ce sens. 19 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dimanche dernier par des assaillants non identifiés dans et autour de la ville d'Arbinda dans le nord du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement de Ouagadougou. Voilà plusieurs mois maintenant que le Burkina est le théâtre de violences islamistes qui ont fait des centaines de morts et plus de 150 000 déplacés. Et puis rappelons que c'est encore non loin de là, chez le voisin malien, qu'une attaque a ravagé dans la nuit de dimanche à lundi un village Dogon. Le dernier bilan fait état de 95 morts et 38 blessés depuis l'apparition en 2015 dans la région de groupes djihadistes recrutant prioritairement parmi les peuls traditionnellement éleveurs. Les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant essentiellement l'agriculture, des cycles d'atrocités entre communautés antagonistes et qui menace désormais l'existence même du pays. C'était il y a tout juste deux mois, l'Organisation internationale du travail, née sur les cendres de la Première Guerre mondiale, la seule création du traité de Versailles ayant survécu. Mais plus encore, la seule organisation tripartite du système multilatéral à l'origine du partenariat social fêtait son 100e anniversaire. Et depuis hier, à Genève, dans un palais des nations bondées, pas moins de 5000 représentants des États, des employeurs et des travailleurs sont donc réunis pour célébrer ensemble 10 jours durant ce siècle d'existence. Il faut dire que si l'OIT, en dépit de son grand âge, semble encore aujourd'hui étonnamment en accord avec son temps, le moment n'en reste pas moins critique au regard, par exemple, du vieillissement des sociétés occidentales ou de la précarisation du travail, véritable menace pour les démocraties, mais aussi de nouveaux défis tels que le changement climatique ou les nouvelles technologies. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Genève. Alors au fond, si ce centenaire interpelle, c'est parce que dans le contexte actuel de la transformation du marché du travail, eh bien les normes édictées par l'OIT il y a 100 ans déjà apparaissent plus que jamais nécessaires pour la cohésion sociale, mais aussi plus que jamais menacées. Alors le président français Emmanuel Macron devrait prendre la parole d'une minute à l'autre. Juste avant lui, c'est la chancelière Angela Merkel qui s'est exprimée. Elle vient tout juste de terminer. Que faut-il retenir, Marie, de son intervention ?
Eh bien, écoutez, avant Angela Merkel, il y avait eu aussi Dimitri Medvedev, le premier ministre russe. Alors comme eux, le président français qui va maintenant bientôt s'exprimer aura sans doute à cœur de dire que l'OIT, plus vieille institution internationale, est utile. L'OIT, organisation tripartite où discute et négocie représentants des travailleurs, des employeurs et gouvernements, est unique. L'OIT, à l'heure où le travail est de plus en plus précaire, soumis à des plateformes numériques, voire menacé de disparaître, a encore un rôle à jouer. Oui, seulement l'Organisation internationale du travail est-elle outillée pour y parvenir ? Pourquoi les normes du travail qu'elle promeut passent-elles en second rang ? On entend un peu ces interrogations en filigrane dans certains discours et sans doute que le président français, lui, les évoquera plus directement. Depuis quelques mois, Emmanuel Macron a un cheval de bataille, la montée des inégalités et une proposition que les normes internationales du travail soient mieux prises en compte dans les accords internationaux, autrement dit les accords d'investissement et de libre-échange. Alors plaider pour plus de multilatéralisme et de coopération entre les institutions internationales ici dans l'enceinte des Nations Unies, bien sûr tout le monde est d'accord, seulement ce conflit des normes est ancien, les conséquences sociales des programmes d'ajustement structurel du FMI sont critiquées depuis qu'ils existent, donc une bonne quarantaine d'années, s'il y avait des solutions simples on les aurait appliquées, donc finalement la seule avancée avec ce discours qui va arriver c'est que un chef d'État de l'un des pays les plus riche de la planète, un pays qui est donc un bailleur important du FMI et de la Banque mondiale, décide de remettre ce sujet sur la table et il donne bien sûr en plus, il a la possibilité, avec la présidence du G7, d'imposer cette discussion aux autres États les plus forts. Mais sans les États-Unis, rien ne sera possible pour cette discussion. Or, ici, à l'Organisation internationale du travail, pendant cette conférence annuelle, les Américains brillent par leur absence.
Merci Marie Viennot en direct de Genève, ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. L'invité de la rédaction à présent pour évoquer la réforme de l'audiovisuel public, André Gattolin, sénateur à LREM des Hauts-de-Seine. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors un an après son arrivée à la tête de Radio France, Sybille Veil a donc annoncé un plan de transformation qui prévoit entre 270 et 390 départs volontaires sur 3 ans sur 4600 salariés. Ces suppressions de postes s'inscrivent dans un plan de 60 millions d'euros d'économies d'ici 2022. Alors que la radio publique vient d'enregistrer des records d'audience et d'engranger également des bénéfices, plus de 7 millions d'euros, des bénéfices pour la première fois depuis 2014, le message est-il selon vous cohérent ?
Vous savez, je crois que la présidente de Radio France ne fait que transcrire du mieux possible le cadre budgétaire qui a été fixé de réduction des moyens de l'audiovisuel public dans le pays, hein, décidé par le gouvernement, qui s'appuie. Alors là aussi, hein, il faut voir. Moi, j'aime pas mélanger France Télévisions et Radio France, parce qu'effectivement, Radio France est une entreprise, vous l'avez dit, extrêmement performante en termes d'audience. Elle est confrontée cependant à une grosse transformation qui va être, comme pour la télévision, la transformation du numérique. Je disais il y a peu de temps, les pylônes TDF, ça va être d'ici 10 à 15 ans relégués au rang d'archéologie. Ce sont les box ou ce sont les systèmes intelligents qui vont prendre le pas sur la diffusion. Et c'est vrai que dans les objectifs qu'elle a dans la feuille de route qu'a Madame Sybille Veil, la présidente de Radio France, il y a ce passage au numérique qui a été retardé, et si on ne le fait pas, il faut bien le dire, que on va avoir une implosion totale des acquis. Moi, je pense que il y a, bien sûr, il s'agit d'argent public, comme toujours. Je rappelle quand même qu'au cours des 15 dernières années, l'augmentation de la contribution à l'audiovisuel public, ce qu'on appelle la redevance, a augmenté beaucoup plus vite que l'inflation. J'en sais quelque chose, puisque je l'ai voté dans le précédent mandat. C'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi des rationalisations à opérer. Après, moi, je suis pas en mesure aujourd'hui, je suis pas ni représentant du Sénat à Radio France, donc sur le dossier, je me permets pas de juger les choix qui ont été faits. Je pense qu'il y a, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a une considération par rapport à l'avenir. Je pense qu'il est important, et dans les médias de demain, ce sont, entre guillemets, les marques, c'est-à-dire vos stations, dans la mesure où elles sont, je crois, et l'objectif, c'est de maintenir les 7 grandes stations. C'est essentiel parce que chacune des stations de Radio France ont une forte identité. Elles ont, et ça va être essentiel demain dans un monde numérisé des médias et complètement explosé. Cette identité est forte et il faut la préserver.
Question de Sophie Delpont.
Justement, comment préserver ces identités, ces lignes éditoriales, alors qu'on parle de synergie, de faire travailler des journalistes sur plusieurs antennes, plusieurs médias? Il n'y a pas un danger là au niveau de la ligne éditoriale et de l'indépendance du service public?
Alors moi, je vais là aussi, hein, j'exprime un point de vue personnel, mais j'ai un petit peu travaillé dans le monde des médias. Je pense que c'est pas la même chose d'être journaliste écrivant papier pour la presse, c'est pas la même chose de faire de la radio et c'est pas la même chose de faire de la télévision. Je crois que les synergies qu'on peut avoir entre radio et télévision, elles sont évidemment technologiques, elles sont en amont dans la production globale d'une information de qualité, c'est ce qu'on attend du service public et toutes les initiatives qui sont prises, hein, notamment celle de RSF, mais aussi à l'intérieur de ces entreprises, de dire nous devons être là aussi pour donner une information certifiée face au phénomène des fausses nouvelles ou des informations déformées. J'ai quelques doutes personnellement sur la capacité de faire en même temps de la radio et de la télévision. Je crois que les synergies, elles sont en amont sur la technologie ou dans l'émergence d'une information, mais ce sont difficilement les mêmes personnes qui peuvent le faire.
Vous parlez de mutation, de transformation, de développement de l'outil web, alors même qu'on parle là de suppression de postes, on parle donc de réduire finalement la voilure, ouais. C'est pas le moment plutôt d'investir?
Oui, mais enfin, attendez, moi, investir, c'est bien sûr qu'il faut investir.
Alors, comment trouver l'argent pour investir?
Je veux dire, il faut regarder aujourd'hui, mais c'est pas le cas propre à l'audiovisuel public ou à Radio France. Il y a une difficulté du consentement à l'impôt des personnes. La question, c'est comment on peut faire mieux ou aussi bien peut-être avec moins de moyens. Il y a quelque chose effectivement qui plombe historiquement les comptes de Radio France et qui ont créé, qui est pas lié d'ailleurs à ces contenus, mais qui sont les travaux de rénovation.
Chantier de la maison de la radio.
Voilà, là on est, je découvre des locaux tout neufs et j'en suis très content. Mais c'est vrai que tout ça, historiquement aussi, c'est l'argent public qui a payé ça. Et je pense que en matière d'investissement, c'était quelque chose d'important, qui fait que l'effort qui est demandé à Radio France est certes important, il est beaucoup moins fort d'ailleurs que celui de France Télévisions. L'effet qualité, audience est là pour témoigner en faveur des antennes de Radio France. Après, je vous dis, tout le monde aujourd'hui est dans des logiques de contraintes financières. Pour moi, l'enjeu, c'est comment on garde cette qualité, non pas, je dirais, simplement en termes de personnes qui les produisent, bien évidemment, mais surtout en termes de capacité de diffusion, parce que dans un monde numérique totalement imploser, j'ai peur que les très bonnes audiences d'aujourd'hui, si on n'a pas les bons canaux, enfin les bons systèmes de diffusion, c'est dommage. Alors qu'on peut développer encore l'audience.
En quelques mots, pour terminer, vous évoquiez les travaux de rénovation de Radio France. Ouais. Selon vous, à qui revient la responsabilité de l'explosion du montant de ces travaux ?
Alors, je ferai un parallèle avec beaucoup de grands travaux qui ont été conduits en France et aussi en Allemagne, un pays dont on affirme la rigueur et où les budgets doublent à chaque fois. Moi, je me demande sur la manière dont on passe les contrats avec les entreprises dans ce pays. C'est-à-dire que les appels d'offres, c'est une très bonne chose, la mise en concurrence, ça conduit parfois à dire n'importe quoi. Et il se trouve, moi je suis dans une faculté, j'enseigne par ailleurs et on construit des nouveaux locaux. Et les anciens locaux, quand on a commencé à essayer de les rénover, on découvre de l'amiante partout, les surcoûts. Ce qui est complètement incroyable, c'est que il y a cette ignorance. Alors moi je ne vais pas porter la responsabilité sur une direction ou sur un organisme de l'État, mais je constate que trop systématiquement, ce type de travaux, c'est une implosion. Et finalement, je crois que les sociétés qui concourent ne jouent pas le jeu et que les systèmes d'appel d'offres ne sont pas assez précis en la matière.
Merci André Gattolin, sénateur LREM, je le rappelle, des Hauts-de-Seine, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot de météo, à l'exception de l'extrême sud-est. Le temps de cet après-midi sera encore perturbé. Quant aux températures, elles afficheront entre 15 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.